17h à Niamey, bonsoir et bienvenue au journal du studio Kalangou. Je suis Rafika Taher pour la présentation. Vendredi 29 juillet 2022, à présent les titres. Près de 680 millions de francs CFA, c'est la valeur d'une quantité de drogue saisie et présentée ce matin à Niamey par l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants OCTRIS. Les précisions avec la porte-parole de la police nationale. 5000 candidats ont débuté les examens pratiques du BTS d'État le 27 juillet au Niger. Les détails dans un instant. Et dans la partie magazine de cette édition, portera sur la danse du Takaï, une identité culturelle de la région de Maradi. L'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants OCTRIS a présenté ce matin à la presse à Niamey les membres d'un vaste réseau de trafic de tramadol démantelé à Yaboni, un village situé non loin de Sagagourou le 26 juillet. Il s'agit de près de 340 000 comprimés de tramadol et 8 000 comprimés d'exol dont la valeur est estimée à 680 millions de francs CFA. Nana Echet Ousmane, commissaire et porte-parole de la police nationale, donne des précisions.
5 individus de nationalité nigérienne interpellés, dont le chef du réseau. 339 364 comprimés de tramadol de marque Royal 225 mg et 8 000 comprimés d'exol ont été saisis. La valeur marchande de la drogue saisie est estimée à 678 728 000 francs CFA à la revente à Agadez à raison de 2 000 francs le comprimé. Ce coût est triplé sur les sites aurifères de Diado et de Tibarkaté. 3 véhicules, 2 motos, un acte de cession, des bijoux en or de contrefaçon, un chéquier et la somme de 5 098 445 francs CFA ont également été saisis. Cette importante saisie marque le début d'un retour en force du tramadol sur le marché illicite, longtemps caractérisé par la raréfaction du produit et par sa substitution par la prégabaline suite au durcissement de la législation par le principal pays producteur et aux efforts nationaux de lutte contre les trafiquants.
Elle était au micro de Tarnan Foudey Ahmed. Et dans certains quartiers de la ville d'Agadez, le phénomène de la vente et la consommation de drogue inquiète les populations. Elle parle de l'inefficacité des services de sécurité pour enrayer ce commerce. Suivez le reportage de Moussa Maman.
Au quartier Tawayansarki, dans la ville d'Agadez, la vente et la consommation de la drogue suivie des actes d'agression inquiètent les populations riveraines. On les écoute.
Tawayansarki, c'est le coin de la délinquance le plus affiché de la région d'Agadez. Aussi haut au vu de tout le monde, la journée comme de nuit comme de jour, les gens se permettent d'étaler de la drogue en plein jour. Sur des tables, les gens en achètent.
Aujourd'hui, dans une ville comme Agadez, il y a un endroit là où on peut trouver de la drogue matin, midi et soir. Vraiment, j'interpelle les autorités.
Pour le maire d'Agadez, Abdraman Tourawa, la solution au problème est collective.
Filin Sarki, c'est un des sites. Mais pour juguler tous ces fléaux, il faudra que nous contribuions tous. La drogue, à un niveau, est une question sécuritaire. Et je me réserve de me prononcer par rapport à cet aspect. C'est les dealers qu'il faudra cibler. Et il faut que la population dénonce.
Pour rappel, cette situation de vente et de consommation de drogue à Agadez a été fortement dénoncée par les femmes de la région lors du forum sur la paix.
Le ministre des Enseignements supérieurs, dans une communication hier en Conseil des ministres, a indiqué que 12 285 candidats au baccalauréat de cette année sont admis au premier groupe toutes séries et spécialités confondues sur 83 734 candidats qui ont effectivement composé, rapporte l'agence nigérienne de presse ANP. De ces admis, 15 ont obtenu la mention « très bien », 205 la mention « bien », 1673 la mention « assez bien » et 10 392 la mention « passable ». Les épreuves des examens pratiques du BTS d'État 2022 ont débuté mercredi 27 juillet. Au total, ils sont près de 5000 candidats répartis dans 8 centres toutes filières confondues. Le directeur des examens du BTS d'État, Rissa Seydi, au micro d'Ali Munkaila Ousseini.
Ces épreuves s'étendent sur 4 jours, 27, 28, 29, 30. Et le 31, on fait des rattrapages pour les candidats qui n'ont pas pu passer. À l'heure où je vous parle, toutes les dispositions ont été prises et tout se passe normalement. Pour l'informatique, nous avons 5 centres. Pour génie électrique, nous avons un centre. Pour génie mécanique, nous avons encore un autre centre. Et pour la chaudronnerie et les constructions métalliques, nous avons un autre centre. Il y a aussi une dernière filière qui va commencer peut-être le samedi, si tout va bien. C'est la maintenance informatique.
Parlons nutrition dans cette édition. Le 21 juillet, le monde a célébré la journée internationale de la malbouffe. Une occasion pour savoir si au Niger, l'on peut parler de malbouffe. Selon le nutritionniste Mohamed Harakoy, au Niger, on peut plutôt parler du manque de diversification de l'alimentation. On l'écoute au micro d'Alamine Ouachar.
Nous remarquons de plus en plus depuis 2 décennies l'apparition vraiment des aliments transformés, les fast-foods, les pâtisseries et autres. La majeure partie de la population s'adonne à la consommation presque exclusive de ces aliments, et ce qui malheureusement entraîne les effets que nous savons, notamment l'obésité qui est la cause principale des maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies rénales et également l'apparition des maladies comme le cancer. Au Niger, est-ce qu'on peut parler réellement de malbouffe? Nous dirons non, parce que au Niger, malheureusement, nous avons un problème de diversité alimentaire. Aujourd'hui, malheureusement, le pouvoir d'achat de la population fait que une consommation équilibrée des aliments est difficile.
Direction Birnin Gonni, où le district sanitaire est confronté à un problème d'appareil de radiologie. Ce problème est dû à l'arrêt du transformateur qui alimente le service de radiologie en électricité. Dr Oumar Oumamane Rabiou explique les travaux qui ont débuté au micro d'Asman Moussa Arzika.
Le nouvel appareil de radiologie qui a été apporté est en bon état, mais c'est l'une des 3 bobines du stabilisateur qui a pris feu. Et puis ce nouvel appareil ne nous satisfait pas en termes de résultats, car il y a certaines radios à faire à une personne en station debout, mais nous sommes obligés de faire coucher la personne pour le faire. C'est une sorte d'acrobatie que nous faisons pour obtenir des résultats. Par finir, nous ne pouvons plus l'utiliser, le stabilisateur étant gâté. Et ce n'est pas facile d'avoir un autre, mais nous avons saisi nos supérieurs hiérarchiques.
Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a nommé jeudi le Nigérien Abdou Abari comme représentant spécial et chef du bureau régional de l'ONU en Afrique centrale, a indiqué Actu Niger hier. Il remplace ainsi le Guinéen François Lounseni Fall. Abdou Bari était le représentant permanent du Niger auprès de l'ONU depuis 2019. Avant, le diplomate nigérien a été le représentant spécial et chef du bureau régional de l'Union africaine en République démocratique du Congo de 2016 à 2019. La situation pastorale nationale est globalement prometteuse sur toute l'étendue du Niger, selon le secrétaire général du collectif des associations pastorales du Niger, CAPAN. El-Hajj Al-Mansour Mohamed pense à d'autres alternatives pour contrer les effets du changement climatique. Il explique au micro de Soumana Amadou.
La situation pastorale, elle est prometteuse. Et les éleveurs aujourd'hui, dans beaucoup de cas, n'ont pas en tout cas besoin d'aliments bétail. Un peu partout, les éleveurs sont très rassurants, calmes, parce que les animaux arrivent à brouter. Il y a de l'eau de mar. C'est vrai, il peut y avoir des surprises, mais nous ne sautons pas. Ces surprises-là, il nous a été signalé des cas de clavelé dans la zone de Gadebeji. Nos membres au niveau de la zone nous ont fait savoir que le service d'élevage, en tout cas, est en train de prendre en charge ces maladies-là. Avec le changement climatique, on ne doit pas compter uniquement sur la pluie. Et il faut avoir des alternatives d'aller dans la production du fourrage. Pour ça, il faut maîtriser les eaux. Même les eaux du ruissellement qui font des dégâts dans certaines zones, et aménager des terres cultivables et aller vers la culture fourragère.
Au magazine de cette édition, la région de Maradi en voie de perdre peut-être un pan de son patrimoine culturel, à savoir la danse du Takaï. Cette danse du Takaï est considérée comme l'identité culturelle de la région, selon le directeur régional de la culture. Ousmane Moussa déplore que les jeunes d'aujourd'hui délaissent cette tradition, au micro de Mohamed Maman.
Les jeunes du village, après les récoltes, se réunissent avec les jeunes filles, s'amuser et danser le takaï. Une danse qui permet aux jeunes de se distraire.
C'est une danse de réjouissance au
départ. Oui, c'est une danse de réjouissance après des récoltes, parce que ça permet aussi de consolider l'unité régionale et nationale. Parce qu'il y a des villages qui s'invitent pour jouer du takaï. Maintenant, c'est même un peu abandonné. parce que avant même dans la ville de Maradi, il n'y a pas un baptême qui va se faire ou un mariage sans danser le taquet. Chaque fois si on parle de quelque chose qui va faire ressortir la région de Maradi, il faut penser à la danse de taquet parce que c'est ça son origine.
C'est l'identité de Maradi.
Exactement, c'est l'identité culturelle de Maradi.
Comment se danse le taquet?
Les jeunes, ils font un cercle, puis on prend des morceaux de bois, on tourne, les deux coéquipiers tapent les deux bois, et ça donne aussi un autre rythme, en dehors du rythme des tam-tam, les bois là qu'on tape aussi donnent un autre rythme qui permet aux jeunes d'être galvanisés, et la danse continue. En tout cas, si c'est le soir, jusqu'à minuit.
Alors, quelle place occupe ce taquet dans la culture de Maradi?
Dans la région de Maradi, et surtout au niveau des manifestations culturelles, le taquet occupe une place de choix. Quand nous partons au 18 décembre, quand on fait le défilé, dès que Maradi arrive, c'est le taquet qui fait la différence entre les autres régions et la région de Maradi. Et c'est bien coordonné, malgré que les jeunes commencent à abandonner, mais quand même c'est bien coordonné parce qu'avant qu'on aille sur le lieu du défilé, on répète d'abord le taquet avec les filles, en tout cas toute la délégation, et vous voyez le rythme est très bon.
Vous dites que les jeunes aujourd'hui sont en train d'abandonner un peu cette culture, cette tradition. Alors pourquoi les jeunes sont en train de s'intéresser de moins en moins au taquet?
Il y a plusieurs facteurs qui interviennent. On a beaucoup de pénétration des cultures étrangères que nos enfants pensent qu'il faut prendre cette culture-là et laisser de côté sa propre culture. Mais maintenant, ça commence à revenir avec Patin Kawayawa parce que maintenant, on invite moins les orchestres au mariage, au baptême. Donc, Patin Kawayawa, même l'accoutrement qu'on porte, ça fait revenir l'ancienne culture que les jeunes sont en train d'avoir.
Nous sommes au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, place au journal Ntamacheck avec Taji Sirali. Puis à 18h15, suivez le forum de la presse dans une présentation de Michel Dedji. Bonne réception.
Hey Issa! Tu vois comment cette deuxième vague de Covid a repris avec force? Honnêtement, cette maladie fait très peur à mon grand-père.
Alou, je peux te comprendre. Moi aussi, j'ai eu le même sentiment de peur lors de la première vague de la maladie. Le virus était encore nouveau. Il est venu dans nos vies sans prévenir et a fait beaucoup de dégâts. Le sentiment de peur est normal.
Tu vois, non? Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est le comportement des gens. Ils négligent trop cette maladie. Malgré les alertes, malgré cette deuxième vague, je vois beaucoup de gens sortir sans masque. Du coup, mon grand-père, vu son âge avancé, préfère ne plus sortir. Je ne sais vraiment pas comment l'aider.
Écoute, Alou, je vais te donner le conseil qu'un docteur m'avait donné lors de la première vague. C'est vrai, cette maladie a fait peur à ses débuts. La vie continue et nous devons apprendre à vivre avec cette maladie. C'est vrai, ton grand-père est âgé et faible. Il fait partie des personnes à risque. Le seul secret de cette maladie, c'est de respecter les gestes barrières. Mets ton masque et sors. Même si les autres ne prennent pas leurs précautions, toi, protège-toi et protège ton grand-père. C'est vrai, sortir sans protection, c'est un danger et c'est risqué. Mais rester à la maison et isolé en pensant se protéger de la maladie est plus dangereux pour la santé mentale. Autant sortir tout en se protégeant en respectant les gestes barrières et les recommandations du gouvernement.
Merci Issa. Pour ces conseils, ne laissons pas la peur nous faire plus de mal. Il suffit juste de se protéger pour pouvoir vaincre la COVID-19.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.